Alors aujourd'hui nous allons donc développer Rosh Hashanah et j'ai appelé ce cours Hacherut Vehadin. Autrement dit, la liberté et la rigueur, le jugement. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est un cours que j'ai écrit pour Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem de cette année. Et là, c'est à peu près un tiers du cours. Donc, je suppose qu'on ne terminera même pas cette feuille. Donc, malgré tout, je l'ai apporté pour amorcer le sujet. Peulato hagdola biyoter shel yom hazikaron, la plus grande action que le jour du souvenir, Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron, la plus grande action qu'il opère sur nous ce jour-là, mitbatet behavlatat ha-ma'amad ha-cheruti shel ha-adam, c'est en mettant en relief l'aspect libre de l'homme. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que s'il s'agit du jour du jugement, Yom HaDin, on ne peut pas juger quelqu'un s'il n'est pas libre. Pour pouvoir passer en jugement devant l'éternité, il faut d'abord que l'éternité nous donne la possibilité d'être libre. Donc avant de juger, elle va mettre en relief cette liberté chez l'homme. Veyomze, Safa Haneshama. Ce jour-là, l'âme flotte. Et qu'est-ce que c'est que cette âme? Eh bien, c'est le degré qui a été créé justement par cette liberté absolue. Notre âme est libre. Il n'y a pas plus grande liberté que l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle est du même degré, entre guillemets, que le Créateur. Notre corps s'est éloigné un petit peu aujourd'hui. Mais notre Neshama, elle a gardé sa spécificité et donc sa liberté. Le corps emprisonne un petit peu et le monde emprisonne un petit peu. Donc, le libre, par définition, par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui lui ressemble le plus dans notre monde, c'est la Neshama. D'accord? Donc, c'est ce qui va flotter le jour de Rosh Hashanah. Parce que justement, cette Neshama est issue de ce grand degré. Donc c'est l'absolu béni soit-il qui fait vivre à chaque instant cette Neshama et qui lui donne en fait cette liberté, qui lui rappelle qu'elle est tout le temps libre. C'est seulement dans cette condition-là où on fait mettre en relief notre Neshama que Dieu peut nous juger. Parce que tu ne peux pas, encore une fois, être jugé si tu n'es pas libre, si tu es prisonnier de quelque chose. Echad mi bituyei cheruto est l'une des facettes de cette liberté. Mofia eifo beofen paradoxali dafka begilui midat hadin. Apoussa la metziut kula be Rosh Hashanah. C'est justement parce qu'il y a un jugement à Rosh Hashanah que je peux comprendre, alors que c'est paradoxal, que je suis libre. Car qui dit jugement dit liberté. Sinon on ne peut pas me juger. Donc si Dieu crée, entre guillemets, un espace-temps ou un temporel qui est jugement comme Rosh Hashanah, ça sous-entend qu'à ce jour-là, tout le monde est libre. Sinon on ne peut pas juger. Ha'adam eino nidon. Donc j'explique un petit peu plus. L'homme ne peut pas être jugé en ce jour-là de Rosh Hashanah s'il est encore esclave de certaines choses qui contredisent sa spécificité, son identité profonde. C'est la même chose. La liberté donne le libre arbitre. Rak b'sha'a shehu mishtacher me'avduto ve'yotze l'acherut. Donc c'est seulement lorsqu'il est libéré de ce contexte-là, d'être asservi, nitan le'ha'amid oto ledin. On peut le mettre sous les projecteurs du divin, de l'absolu. Donc l'esclave ne peut pas être jugé. Alors je vous pose une question avant de continuer. Que fait-on nous, Rosh Hashanah? La malchoute, on fête la malchoute, ça se fête la malchoute. On couronne Dieu roi, ça donne une fête, ça. Alors j'ai quelque chose d'important à vous dire. On ne peut pas, dans le judaïsme, inventer une fête s'il n'y a pas un événement historique qui a contenu cet élément. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que nous fêtons? La création de l'homme, vous dites. C'est ça? Il y a fait, mais ça, la création de l'homme, ce n'est pas un fait historique. Un fait historique doit toucher la nation d'Israël. Or, l'histoire a commencé seulement à la sortie d'Égypte. Moralité, la Gemara nous dit, Karosh Hashanah, les enfants d'Israël ont arrêté d'être asservis en Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte de facto 6 mois plus tard à Nissan. Moralité, ce que vous fêtez, ce que nous fêtons Rosh Hashanah, et ça demandez-le dans la rue, personne ne le sait, c'est la libération de l'esclavage. Donc ça va dans le même sens que ce que je suis en train de vous expliquer ici. Tant que le peuple d'Israël n'était pas sorti de son asservissement, il ne peut pas passer au jugement, car il est déjà asservi, jugé par celui qui le domine. Moralité, le jour de Rosh Hashanah, nous nous libérons de ce qu'on appelle l'Égypte. Donc nous avons deux fois une sortie d'Égypte dans l'année. Une sortie d'Égypte de l'esprit, même si on est encore en Égypte physiquement, et une deuxième sortie, c'est la sortie physique de l'Égypte. Rosh Hashanah, on fête la sortie mentale de l'Égypte. C'est-à-dire que, de facto, 6 mois avant la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ne travaillaient plus en Égypte. Pendant 6 mois, ils se baladaient, sans rien faire. C'est dans la Gemara. D'accord? La Gemara nous dit Berosh Hashanah Paska Avoda Mitzrael de Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on a arrêté de travailler. Donc, les sages nous relatent un fait historique qui est passé donc de père en fils. On ne peut pas inventer une histoire pareille. On ne peut pas dire à nos enfants, vous savez que dans une génération, il y en a 3. Vous êtes d'accord? Il y a la grand-mère, la fille et la petite-fille, au moins. On peut pas raconter des histoires si la chose n'a pas eu lieu. Donc la Gemara, c'est pas une invention de nos sages qui ont décidé d'écrire et un jour, à Rosh Hashanah, on s'est arrêté de travailler. C'est un fait qui est passé de génération en génération et les gens savent qu'à Rosh Hashanah, on a arrêté de travailler.
Mais ça contredit le fait que justement, à partir du moment où Moshe a reçu l'ordre d'un chef avec toutes les salotes qui se sont passées, et il s'est plaint auprès d'Hachem, il dit, mais pourquoi as-tu endurci encore plus le cœur de toi?
Mais parce que vous avez l'impression que les plaies d'Égypte ont duré une semaine ou deux. Combien de temps? Un an. Ah ben voilà. Eh bien, pendant les un an qui s'est passé, on est arrivé à Rosh Hashanah. C'est tout, c'était fini. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui s'est passé après, c'était juste les plaies, les dernières plaies, parce que Pharaon justement a endurci son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a endurci son cœur? Non. Lorsque quelqu'un reçoit une gifle en faisant une bêtise, il est annulé, il a perdu à ce moment-là même son libre arbitre. Vous êtes d'accord? Donc pour que Pharaon ait toujours son libre arbitre, que faut-il faire? Lui endurcir le cœur, c'est tout. C'est-à-dire qu'on remet toujours Pharaon au degré du choix. Si vous faisiez par exemple une Avera Shabbat, et immédiatement vous êtes brûlé, il n'y a plus personne qui est Mechalel Shabbat. Au contraire, le fait de vous laisser continuer à profaner le Shabbat, ça prouve que vous êtes encore libre. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'est pas un robot de punition si tu fais quelque chose. Donc lorsque Paro perd son libre arbitre parce qu'il reçoit des coups, Dieu doit lui endurcir le cœur pour qu'il ait encore une fois son libre arbitre. Au contraire, c'est pour aider Paro. Donc vous comprenez qu'en réalité, ce que nous fêtons, c'est la libération d'Israël d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, la première des choses que vous devez mettre dans votre esprit, c'est que vous êtes libre. Ce jour-là, de qui? De l'Égypte, pas de nous-mêmes. De tout ce qui t'embête dans la vie. C'est ça Paro et c'est ça l'Égypte. De tout ce qui t'enferme dans un système qui t'empêche de voir la vérité. Voilà. Ha'avdut פשוט מסירה מן האדם את האחריות שלו על מעשיו. L'asservissement, il enlève la responsabilité. Quand tu es asservi à un maître, tu n'es plus toi-même. Donc comment veux-tu que l'Éternel, qui est juste, te juge? Il ne peut pas te juger, tu n'es pas libre. Donc l'asservissement enlève la liberté, donc il enlève aussi la possibilité de te juger. Adam Sheibed et Cheruto, un homme qui a perdu cette liberté, Moset Atzmo Michutz le Maarechet Amishpat Haeloï, c'est comme s'il sortait du jugement divin. Il est déjà dans un système où il n'est plus lui-même. Il est prisonnier dans un système. On appelle ça aujourd'hui Tinokot Shenishbu. Des bébés qui ont été faits prisonniers par un système. Ils ne sont plus dans leur cohésion, ils savent même pas qu'ils sont en train de fauter. D'ailleurs, dans certaines conditions, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu sais, tu es en train de faire une avéra. Parce que là, tu vas le mettre dans une possibilité, maintenant il sait. Alors que jusqu'à maintenant, il ne savait pas. Donc il faut faire très attention au niveau psychologique, comment parler à quelqu'un. Rak Mishor et Shacherut, donc c'est seulement à partir de la racine de la liberté, c'est-à-dire donc d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui est le champion de la liberté, personne ne lui dit quoi faire, il n'est pas soumis à aucune règle, il fait ce qu'il veut, c'est une liberté totale, on n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. Dardou Hamim, Todaraba, ça c'est du bon cœur. Nitan la redet et la meimadin apratim sheladin. Bien. C'est seulement à cette condition qu'on peut descendre dans les résolutions très 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 précises du jugement. C'est seulement parce que tu es libre. Rak betnai she adam shayach leatmo. Donc c'est seulement dans une possibilité, dans une condition où l'homme s'appartient lui-même, ou mityatsev el moul mekoro, qu'il peut se placer devant sa source. Et lorsque je suis libre et je peux me placer devant ma liberté absolue qui était au départ, eh bien c'est cette comparaison qui va me juger. Donc oubliez le fait qu'il y ait un Dieu assis sur une chaise comme Chas v'Shalom on peut l'imaginer. Et qui te juge, tu passes devant lui, te dit nous, qu'est-ce que t'as fait? C'est beaucoup plus subtil que ça. Dieu t'a placé devant toi-même. Devant ta source libre. Et c'est la comparaison entre ce que tu es devenu dans ce monde et cette source en question que tu seras jugé. Donc c'est la comparaison qui te juge. À ce que tu es capable de faire dans ta construction initiale. Ce pourquoi tu as été le mieux doté d'une certaine capacité, et on va te poser la question, est-ce que tu as utilisé cette capacité ou pas? Est-ce que tu l'as étouffé par hasard?
Alors ce jugement,
on va voir qu'on est récupéré, on va le connaître.
Mais quand on
est
en logique,
c'est juste
qu'il en fait ça.
Alors, il y a plusieurs degrés d'Égypte, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a certains degrés qui sont moins responsables que d'autres. C'est-à-dire que, si je veux exagérer un petit peu plus, le judaïsme de l'exil s'est sorti, s'est sauvé de sa responsabilité. Tout à fait. C'est pas qu'ils ne sont pas jugés, c'est pas la même, le même degré. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus on est medakdek avec toi. Comme nous savons ce que la Gemara nous dit. Hakadosh Baruch Hu medakdek im atzadikim kechut ha-sahara. Plus tu grandis, plus Hakadosh Baruch Hu est en train de voir avec toi ce qui va ou ce qui va pas dans les petits détails. Un mauvais élève qui est devenu un petit peu moins mauvais que ce qu'il était hier, on va lui dire bravo, bravo, il a 3 à la place de 2 sur 20. Mais un tzadik qui a 100 toute l'année, quand il a 95,8, le prof lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et il peut se rebeller, se dire, attends, oh, l'autre il a 3, moi j'ai quand même 98 sur 100, 99 sur 100. Mais c'est comme ça. Donc les tzadikim, ils sont dans la justesse. Pas seulement dans la justice. Le mot tzedek, pas seulement tzadik. Donc plus tu grandis, plus tu prends conscience de tes responsabilités. Et donc on te demande de vivre, en l'occurrence, par rapport à cette responsabilité que tu viens de comprendre. Acherut mashiva la adam et achrayut. Donc que fait la liberté en fait? Elle rend à l'homme sa responsabilité. Al chayav, non seulement sur sa propre vie, ve'a la bria kula, mais c'est aussi sur l'existence tout entière. Parce que plus tu deviens sadique, plus tu grandis, plus tu es libre, et tu as conscience de cette liberté, plus tu comprends que chaque pensée, que chaque parole, que chaque acte influence l'univers. Ce n'est pas des choses anodines que tu fais, tu peux dire ce que tu as envie. Non. Plus tu es grand, plus chaque mot a un poids, plus il est filmé par le monde entier, on peut le voir physiquement. Quelqu'un d'important, lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde, immédiatement, le filme, les journalistes, les machins, il a dit. Vous pouvez dire ce que vous voulez toute la journée, personne n'est là pour vous filmer. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une responsabilité, une prise de conscience du rôle que tu joues et de ce que tu génères derrière toi. Et donc un rave, lorsqu'il a une responsabilité par rapport à des gens qui suivent ce qu'il fait, il se doit tout le temps de faire attention à tout.
Par exemple, avoir des
rides. Un exemple, Nachon. Et plein d'autres choses. Et donc, un rave, même s'il ne fait pas attention, lorsqu'il va prier au Beit HaKnesset, toute la synagogue le regarde. Chaque mouvement qu'il fait. Pourquoi tu t'es pas levé là? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? J'ai vu que tu n'as pas mis le titi sur les... C'est ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Et il faut ne pas avoir peur de cette responsabilité et de la prendre en main. Hachéla mitbakeshet, maintenant je pose une question, malgré tout se pose. Haïm et Sofoshel Lavar, Zekedai, Olo. Est-ce qu'après tout, ça vaut le coup tout ça? Après tout, peut-être que, à la limite, il vaut mieux être esclave d'un système et d'avoir une petite tête, Rosh Katan, et je m'en fiche, allez, laissez-moi tranquille. J'ai envie de quitter la vie. Qu'est-ce? Ah, d'accord, mais peut-être qu'on peut tout lâcher. On a le choix. On a le choix. On n'a pas le choix au niveau collectif, mais on a le choix au niveau individuel. De révéler ce collectif ou bien de l'étouffer dans sa petite personne. Mais le choix, c'est vrai qu'on ne l'a pas au niveau de nation. On l'a vu hier. Hier, on a vu une bride, une alliance contractée entre Dieu et Israël. Normalement, quand je contracte une alliance, qu'est-ce que je fais? Il y a 2 partenaires dans l'alliance. Chacun se serre la main et dit quelque chose. Dans cette alliance, il n'y a pas de partenaire. Il y en a un seul qui va braquer l'autre et qui va lui dire « Voilà, mon alliance, c'est d'avoir créé un être comme toi. C'est foutu. » C'est-à-dire que Dieu nous a créés malgré nous avec une capacité de révéler sa lumière dans le monde. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça n'intéresse pas. C'est comme ça qu'il nous a créés. Ça, c'est une alliance. Eh bien, Dieu appelle ça « Abrit Shekarateti Itren ». C'est mon alliance à moi. Tu ne peux pas te soustraire à elle. Donc, c'est un braquage. Dieu nous braque et nous dit, vous n'avez pas le choix. Au niveau du peuple, de la nation, de la notion de Klal Israël. Maintenant, toi, tu es né d'une maman juive. Tu es une personne individuelle. Est-ce que tu es fidèle à ce que le peuple d'Israël a reçu, ou bien tu fais ta propre vie, tu fais ce que tu as envie. Là, c'est ta liberté.
Comment se rattache la célébration de la sortie d'Égypte avec Briat HaOlam?
Léa Claire. Briat HaOlam, c'est pas ce que nous fêtons Rosh Hashanah. Pour une seule et bonne raison, c'est que Briat HaOlam n'a pas eu lieu le jour de Rosh Hashanah, mais 6 jours plus tôt, c'est-à-dire hier, Shabbat. Hier, nous étions le 25 du mois de Elul, c'était la date de la création du monde, la vraie. 6 jours plus tard, donc Rosh Hashanah, c'est seulement la création de l'homme. Or, il y a une fête pour la création du monde, laquelle c'est? Shabbat. Zecher, Lemaase, Bereshit, vous le dites dans le Kiddush. Il faut encore comprendre ce qu'on dit. Mais tous les Shabbats, vous fêtez, sans peut-être le savoir, mais maintenant vous le savez, l'anniversaire de la création du monde. Donc, enlevez ça de votre tête, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous fêtez un fait historique très mal connu, la libération des enfants d'Israël d'Égypte, avant de sortir physiquement. Ils ont arrêté de travailler Rosh Hashanah. Et ça, c'est très important de le savoir. Et il y a eu beaucoup de choses, d'ailleurs, en étudiant cette Gemara. Pas seulement le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à cette période-là, Yosef lui-même est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Et il faut comprendre aussi ce que ça veut dire, tout ça. Quel est l'intérêt de nous donner des informations pareilles? Mais tout simplement, il faut que tu fasses un doctorat sur Yosef, pour savoir qui est ce personnage. Et quand tu comprendras qui est ce personnage et qui est sorti d'Égypte ce jour-là précisément, tu vas comprendre des choses dans ta vie. Encore plus que ça, fais un doctorat sur le peuple d'Israël que personne d'entre nous ne connaît. Vous êtes né et directement, allez, dans la charrette. Personne ne sait qui nous sommes, c'est terrible. Je passe à peu près 2 ans au Machon Meir à faire des cours aux nouveaux élèves qui arrivent seulement pour leur dire qui est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous sommes? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé? Vous croyez que c'est un ensemble de personnes qui a fait un club et on veut Israël? Non, c'est pas ça. C'est une création divine. Et d'ailleurs, c'est l'alliance. L'alliance est une création divine. Donc elle nous laisse pas le choix. Il nous a créé comme ça. Mais comment? Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Quelles sont nos qualités? De quelle matière sommes-nous fabriqués? Je ne parle pas des juifs que nous sommes. Je parle de cette notion de peuple, de Knesset Israël, qui est l'épouse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Que Rabbi Akiva dit, ça s'appelle une forme de vie qui se trouve au centre même de l'univers. Chaya achat omedet be'emsa arakia ve'Israël shma. Il y a une forme de vie qui est au centre de l'univers tout entier qui s'appelle Israël et il est marqué sur son front Israël. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'étudier ça. Si je ne sais pas qui je suis, comment pourrais-je revenir à ma racine, à ma source? Vous parlez tous de tshuva. Tshuva pour revenir à ta source, Israël. Mais si tu n'es pas fidèle à ta source Israël en tant qu'individu, qu'est-ce que tu te fais? Tu te perds. Je vais vous le dire d'une autre manière. Si maintenant je prends un appareil et je le rentre à l'intérieur de ton être, qu'est-ce que je dois trouver là-bas, au plus profond de toi? Le peuple d'Israël, Ashkina. Et non pas Rachel individuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que nous, on a l'impression qu'au fond de nous, nous avons seulement le moi. Mais notre vrai moi, c'est l'Assemblée d'Israël. Et ça, un chanteur pas très religieux l'a compris en Israël. Il s'appelle Shlomo Arzi. Il a écrit une chanson, Pit'om kam Adam baboker, un jour se lève un homme le matin, ou margish ki ouam, et il comprend, il sent qu'il est un peuple, ou matril alechet, et il commence à marcher. Écoutez-moi, si c'était le Rav Kook qui avait écrit ça, j'aurais dit, il n'y a que lui pour écrire. C'est une merveille, je suis ému de cette phrase. Ça veut dire qu'il a compris, ce bonhomme, que chacun de nous est un peuple seulement. Il doit se réveiller un jour et se regarder dans la glace et se dire, je suis pas Yoel tout seul. Je suis une nation tout entière, que moi, Yoel, je ne suis qu'un rayon de cette nation. Alors Yoel, fais gaffe, sois fidèle à la nation que tu représentes. C'est ça que ça veut dire. Et on est loin de ça. Pourquoi? Parce que la psychologie moderne, qu'est-ce qu'elle a trouvé au fond de toi-même? Seulement toi-même. Un égoïste. Individuel. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu fais le petit douche, même s'il n'y a personne chez toi à la maison, tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu as l'Assemblée d'Israël qui, elle, a reçu la mitzvah de faire le petit douche. Et toi, tu es juste un petit bras, donc tu n'es pas seul, tu as tout le peuple derrière toi. Fermez les yeux une seconde avant le kiddouche du Shabbat, juste pour penser ça. Je suis pas seul avec 4-5 personnes dans ma famille. J'ai une nation tout entière où tout le monde au même moment est dans ce inyan. Agmara Masbira, l'Agmara explique qui seder atkiot berosh hashanah, que le sens des sonneries du chauffard ce jour-là, de Rosh Hashanah, car vous savez qu'il y a une seule mitzvah ce jour-là, c'est de sonner du chauffard. Je rectifie, d'entendre le chauffard. Mais pour entendre, il faut quelqu'un qui sonne. Donc il y a une machloket dans la Gemara, et finalement les chachamim se disent, il faut et sonner et entendre. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire que le premier acte de l'année, il est passif. C'est-à-dire que je suis activement en train d'accepter d'être à l'écoute. Quelle force. Non, Alvaï, qu'on soit tout le temps à l'écoute. On est tout le temps préoccupé à dire ce qu'on a à dire. On n'écoute plus du tout. C'est ça le problème. Ça, c'est son problème. Lui, il sonne tout le temps, mais est-ce que tu l'entends tout le temps? Alvaï qu'on entende le col tout le temps. Bechol yom bat kol yotzet mehar choret. Chaque instant, il y a cette voix qui sort, mais qui l'entend? Certaines personnes qui sont au niveau de l'écoute, qui sont disponibles à entendre. Donc, on commence l'année par une décision active d'être passif. Incroyable. Extraordinaire. Ça veut dire que je commence mon année par une non-action. Car si je commençais par une action, eh bien mon année, elle est limitée par mes actions. Alors que si je commence mon année par une non-action, par une écoute de celui qui est le maître de l'univers, et moi, je me tais, eh bien mon année, elle est remplie d'infini. Vous comprenez la différence? C'est comme l'alphabet hébraïque. Il commence par quelle lettre? Le Aleph qui est muette. C'est une lettre muette. La première lettre, en réalité, la seule lettre de l'alphabet, c'est le Bet. C'est pour ça qu'elle est tellement B. C'est la vraie lettre. C'est comme la seule couleur qui existe dans le monde, c'est le rouge. Il n'y a pas une autre couleur. Comme ça nous disent les Chachamim. Eh bien, la seule lettre qui existe, c'est le B. Tu sens le combat quand tu l'as dit, alors que la première, elle est muette. Là aussi, on commence notre alphabet, donc notre verbe, par un silence. Ça, c'est la création elle-même. Mais avant, il y a un silence total. Quand vous regardez un Sefer Torah, la première lettre que vous voyez, c'est quoi? Le vide, Yefem. Alors que la plupart des gens allaient dire le bête de Bereshit. Mais avant le bête, il y avait du blanc. sous le bet, il y a du blanc. Derrière le bet, il y a du blanc. Il y a plus de blanc que de l'air dans le Sefer Torah. C'est un silence total que personne n'entend, parce qu'on ne sait plus lire entre les lignes. On ne sait plus lire les silences du maître. On n'entend que ses paroles. Alors qu'un bon élève commence à entendre les silences de son rav. Dans la musique, est-ce que les silences n'ont pas autant d'importance que les sons? C'est vrai. Le rythme, c'est les silences. Le chef d'orchestre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à chaque fois les silences. Il leur dit, maintenant tu te tais, arrête de jouer. C'est extraordinaire. Avant de mettre ta plume sur le papier pour écrire une lettre, ça a juste une pensée. Cette pensée, elle est silencieuse, elle n'a même pas encore commencé à tracer un quelconque degré. Bien, dans cette pensée se trouve déjà toute la lettre que tu vas écrire. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Donc je recommence. Première mitzvah de l'année, tais-toi et entends. Il y a un autre son que celui que toi tu aimais. C'est le son par excellence. J'allais même pas le traduire par son, parce que le son, c'est encore un tlil en hébreu. C'est une voix. V-O-I-X et V-O-I-E. Je sais même pas laquelle est plus vraie. C'est celle-là que tu dois entendre. C'est pas la sonnerie du chauffard, du type qui est en train de sonner. Tu dis, ah, il a bien sonné, hein, grâce à Dieu, à l'année prochaine, hein, si Dieu veut. C'est à ça qu'on s'arrête, nous. Donc le seder des tkiot, parce qu'il y a quand même un ordre, et attention, pour ceux qui connaissent les halakhot du chauffard, les vides entre les tkiot sont plus importants encore que les tkiot. Si tu ne sais pas attendre, ou bien si tu respires entre deux sons, alors qu'il est interdit de respirer dans certains sons, eh bien c'est faux. Celui qui est à côté de toi, il te dit recommence. Nous on a l'impression que c'est juste comme ça des trucs. Et on voit encore quand c'est pas si le Moïse, je sais pas quoi, les 10 commandements. Donc le rythme des sons à Rosh Hashanah, l'ilmad mi shofaro shel yovel. D'où est-ce qu'on l'a appris, dit la Gemara? Du shofar qu'on sonnait le jubilé tous les 50 ans. Or qu'est-ce que c'est que le jubilé? La libération de qui? De tous les esclaves. Donc ça rejoint, et de toutes les terres. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'où est-ce qu'on a appris les sonneries du chauffard, le rythme des sons du jubilé? Qui? Ce jubilé en question, c'est la libération. Donc moralité, le chauffard vient libérer les esclaves pour leur rendre leur responsabilité en leur rendant leur liberté. Tout ça c'est Rosh Hashanah. Bedaf Lamed Gimel Katouf, donc dans la page 33, Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah lo nizkar shofar velo tkia lefanea ou leacharea. Jamais on a compris, on a vu aucun verset dans la Torah où on nous dit de sonner du shofar. Il n'y a que des versets qui sont très très flous. Et Yom 3, Ihye Lachem, Zichron Teroua, Ihye Lachem. Voilà ce que la Torah nous dit. Un jour de Teroua, maintenant on ne sait pas ce que c'est Teroua, alors imaginez-vous le nombre de pages dans la Gemara pour comprendre ce que ça veut dire 3. Alors un coup c'est Yom 3, c'est un jour de Teroua, et un autre parasha nous dit Zikaron. C'est juste un souvenir de la Teroua. Alors les Chachamim vont dire, bon, le souvenir, c'est quand on ne peut pas sonner du shofar de facto. Quel jour on ne peut pas sonner du shofar? Le Shabbat. Donc, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est un zichron Teroua. Donc on se tait, on fait semblant d'entendre quelque chose. On ne doit pas faire semblant. On doit entendre parce que c'est le véritable son du shofar. C'est pas parce que celui-là, ton copain, est en train de sonner qu'il a entendu. Même Shabbat où on sonne pas dans ce monde, tu devrais entendre le son du chauffard. Et d'ailleurs la Amida c'est la même. tout le monde s'arrête. On n'entend rien du tout physiquement dans ce monde. Et tout le monde entend Ayom, Arat, Olam, Ayom, comme si on vient de sonner. Mais il faut l'entendre ce son-là. Donc, Elahu kash la yovel, venit starfuze la ze rosh hashana be yovel. Donc, les chachamim, qu'ont ils fait? Ils ont été chercher le chauffard du jubilé, et ils ont juxtaposé le chauffard de rosh hashana avec le chauffard du jubilé. Ok, alors dans Vahareotem, c'est-à-dire que Utkatem Bachasotzot, il y a encore les trompettes, aujourd'hui on n'a pas les trompettes, mais du temps de la Torah, on sonnait en même temps des trompettes à des moments donnés, et le chauffard doit continuer, ou bien c'est les trompettes qui continuent. Il y a une grande différence entre la trompette et le chauffard. La trompette est une fabrication humaine, le chauffard est une fabrication divine. Regardez, c'est énorme ce qui se passe là-bas. Où est ton intervention, toi, en tant qu'homme? Trompette? Tu n'es qu'une trompette. Et où est l'intervention divine? C'est lui, le chauffard. C'est Ka'ab et chauffard, Gadol et Cherutenu. C'est toi qui vas sonner du grand chauffard. Ah, vous croyez vraiment qu'un jour vous allez vous lever le matin et vous allez entendre bouh? Vous allez dire, ça y est, c'est le Mashiach, en attendez. Non. C'est le jour où vous êtes monté en Israël. Vous l'avez déjà entendu dans votre cœur. C'est Ka'ab et Shofar Gadol, les Cherutenu, Vesanet, les Kabet Galuyoteinu. Qu'est-ce que tu fous en Israël? C'est parce que tu as entendu le Shofar. Comme j'ai l'habitude de dire, le Shofar, c'est le plus mauvais conducteur en français. Alors que dans la Torah, c'est le meilleur conducteur de lumière. Merci. Mikan, je reçois des notes et tout. Shetkiat Acherut shel klal Israël bayovel. Donc, de là, nous apprenons que la liberté du jubilé, c'est d'ailleurs de là qu'on jubile. Et pourquoi le jubilé, c'est tous les combien? 50, vous vous en rappelez des shiurim du chiffre 50, d'accord? Qu'est-ce que c'est le chiffre 50? C'est Bina, c'est au-delà des mouvements qui te cloisonnent, qui t'étouffent, qui te sclérosent. Donc, c'est pas par hasard que c'est la 50e porte où, dans laquelle il faut sonner ce jubilé. Donc ça, c'est la grande liberté. Comment ça s'appelle en hébreu, cette liberté? Ni, vous vous rappelez? Même Yud, même 40, Yud 10. Quand tu es, sais qui tu es, Mi, et qu'il est sorti de Traim, Mi Traim, tu as sorti ton Mi, tu sais qui tu es dans ton identité, c'est-à-dire un peuple, au-delà du temps et de l'espace et de tout. Alors là, tu commences véritablement à jubiler. Donc, Shetkiat Acherut shel Klal Israël Bayovel, Hi Amakor, le Kol Atkiot Shanu Metsuvim Alehem Berosh Hashanah. Moralité, toutes les tkiot de Rosh Hashanah viennent, tirent leur source de cette grande cendrie qui libère en réalité les esclaves, donc qui nous libère de toutes les contraintes qui nous étouffent dans ce monde. Et donc, quand tu es dans cette liberté-là, tu peux maintenant être jugé. Arichuk mi yesod ha'adam mapil lechayi avdut. Qu'est-ce que ça veut dire être esclave? Tout à l'heure, j'ai dit qu'un esclave ne peut pas être jugé. Mais c'est tout simplement l'éloignement de sa structure homme, de base.
Qu'est-ce que ça veut dire
ne pas être jugé? Ne pas être jugé, ça veut dire ne pas être apte à être jugé parce qu'en réalité, tu es prisonnier de quelque chose. Il n'est pas libre, il est foutu dans un système. Il ne vit pas. Il est motorisé dans un système qui ne lui laisse aucun choix. Il peut être bien. Il peut être bien. Il peut penser qu'il est bien. Il peut penser qu'il est bien. Okay? C'est comme si tu me disais, est-ce qu'un chat sait qu'il est chat? Non, il vit. C'est tout. Il vit. Et quand il voit un autre, il dit, tiens, ça doit être la même chose, je ressens quelque chose, je ne sais pas. Il vit, tout simplement, il vit. Tu veux t'approcher de lui, il a un instinct, il se sort. C'est tout.
Alors, attends,
Non. Il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être jugé. Il vit sa vie de chat comme un tzaddik robotisé. C'est tout. Donc un chat est un tzaddik robot. C'est tout. Peu importe, il n'a pas ce genre de système. Mais l'homme, lui, a cette capacité. Car ses instincts à l'homme ne sont pas immédiatement mis en action. Alors que un oiseau, dès qu'il est né, ses instincts directement fonctionnent en lui. Chez l'homme, non. Donc, il y a une certaine liberté. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, Adam Shenafa le Shi'aboud, un homme qui est tombé dans cet asservissement, peu importe lequel, qui s'est éloigné de sa nature d'homme, Chayet Mahout, et non Chayet Mahout Chayav, ne vit pas sa véritable vie. Ok ? Ou mitalech be'olam chassar mashmaout, donc le monde dans lequel il vit n'a aucun sens. Shelo kedai lichyot bo, d'ailleurs, d'après le Rambam, c'est même pas, ça vaut pas la peine d'être vécu une vie pareille. C'est ce qu'on appelle un rachat. C'est ce qu'on appelle Rechaïm Afilou Bechaïhem Kouim Meti. C'est possible d'être conscient qu'on est esclave. Donc, En Asur Matir Atmo Mibeta Asurim. Vous avez raison, un prisonnier ne peut pas se sortir lui-même s'il n'y a pas un appel, un réveil qui vient le réveiller. Qui fait ce réveil-là? Le chauffard. C'est pour ça que le Rambam nous donne un sens à la sonnerie du chauffard. Rourou yeshenim mitardem matrem. Réveillez-vous de votre grand sommeil, de votre torpeur, j'allais dire. Ha'amatatol ha'mishpat de Rosh Hashanah el moula arachim ha'mekorim. Donc le fait que nous soyons mis à côté en comparaison, j'allais dire, avec nos véritables valeurs initiales, Mavlita est à part Bena Ideal et Bena Matsui. C'est ce qui va faire ressortir la différence entre ce que j'étais à la source et ce que je suis maintenant. Becholzot, mais malgré tout, il y a quelque chose de très bien là-dedans. Et c'est Mahamida Sheloledin, Bayomazé, le fait même qu'il soit mis en jugement ce jour-là, Mochicha, ça prouve et Trashibuto ben et Aboré, qu'il est important aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel le prend en compte, il dit, mais attends, t'es important pour moi, je veux que tu reviennes à toi-même. N'aie pas peur du fait que tu sois jugé par rapport à toi-même. Le fait que je m'occupe de toi, c'est déjà important. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on doit s'habiller en blanc. Pourquoi? Nous disent Chachamim, parce que tu dois être... Non, pas comme un malheur. Tu dois être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu t'aime et qu'il veut que tu t'en sortes. Il n'est pas là pour te tuer, il n'est pas là pour t'inscrire dans le livre de la mort, Chas v'Shalom. Mais en même temps, tu dois trembler. Alors comment je peux trembler en étant en blanc? On appelle ça en hébreu, Gilou Birada. Ça veut dire, vous tremblez parce que malgré tout, tu es devant un jugement de l'infini, béni soit-il, par rapport à ce que j'étais et comment je suis devenu. Et en même temps, je suis conscient que Dieu m'aime, et c'est pour ça qu'il me juge. Ve'uvda zok shele atzma, donc cette seule preuve, cette seule vérité déjà, shava et mechir ha'amada ledin, ça vaut la peine d'être jugé ce jour-là. Donc il ne faut pas voir le jugement comme quelque chose de menaçant seulement, c'est sûr qu'il y a une certaine angoisse dedans, mais il faut la voir comme un cadeau que Dieu a tellement d'importance. J'ai tellement d'importance à tes yeux que je suis encore là. Qui veut bien me juger? Et plus la proximité est grande, comme ça le jugement deviendra de plus en plus précis. Bien entendu, tout ce qu'on vient de dire, c'est relatif à Rosh Hashanah. C'est de Rosh Hashanah que je veux parler. Yom ze nikra b'Torah zichron teruah mikra kodesh. Ce jour-là est appelé dans la Torah, donc souvenir de la teruah, mikra kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire mikra kodesh?
la courbe, un moment de conflit, événement.
Qui appelle? Non. À chaque fois qu'il y a marqué Mikra et Kodesh, c'est Israël. D'accord? Attention. Par exemple, Shabbat, il n'y a pas marqué. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Dieu qui le sanctifie. Moi, je ne sanctifie jamais le Shabbat. Je ne peux pas sanctifier le Shabbat. Vous êtes consciente de ça? D'accord? Shabbat, malgré moi, il me tombe dessus toutes les semaines, depuis la création du monde. Les fêtes, non. C'est moi qui fixe. Zon ekudat azman, donc c'est un moment dans le temps, dans la notion du temporel, ha-ma'amida et tabria kula b'matzav shel din, qui va placer en réalité la création tout entière dans un état de jugement. C'est-à-dire, on va juger en fait le monde par rapport à ce que Dieu voulait qu'il soit au départ et ce qu'il est devenu maintenant. Nekudat mishpat zo na'aset beyom bo oleh hazikaron shel kol ha'briya lifnei ha'boreh. Et pourquoi ça se fait ce jour-là? Bien, nous disent les chachamim, c'est le jour où le souvenir de cette création monte dans la pensée divine. Comme si Dieu oubliait le reste du temps, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on fait certaines choses pour que le lien soit plus fort entre lui et nous. Si je devais vous résumer un petit peu ce que vous allez faire Rosh Hashanah à la synagogue, et ça si vous l'expliquez à vos maris, waouh! Qu'est-ce que vous faites Rosh Hashanah? Alors d'abord, vous fêtez la libération du peuple d'Israël. Ça, personne ne le sait, pratiquement. Deuxième chose, vous le couronnez roi, nakhon. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que vous rappelez des 10 sphères. La malchoute, c'est la dernière, la royauté. Et la malchoute, en réalité, c'est notre maman à nous. Donc c'est le lien entre l'infini et nous. Donc ce jour de Rosh Hashanah, on va définir la nature du lien entre lui et nous durant une année. Est-ce que ce lien sera avec des sourires? Est-ce que ce lien sera chas v'shalom colérique? Je ne sais pas si on dit coléreux ou colérique, le chachou. Oui, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire par rapport à comment tu viens et tu le couronnes et tu lui dis « Je veux que tu sois roi ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je veux que tu sois roi » ? Je veux qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand j'ai une pensée, je veux qu'elle soit fidèle à ta pensée. Si tu n'aimes pas le bleu, j'aime pas le bleu. Tu aimes le bleu, j'aime le bleu. Dans mes actions, pareil. Je ne veux plus rien faire, quelque chose qui soit contraire à ce que toi tu veux faire. Tu aimes la vie, j'aime la vie. Si je fais la gueule, ça veut dire que je suis contre toi, Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas heureux dans leur vie, c'est déjà une faute. Parce que Dieu est bonheur. Donc je dois tout faire dans ma vie, je dois me battre pour redevenir heureux. Si t'es pas heureux, va te soigner. Va faire en sorte de redevenir heureux. Cherche pourquoi t'es pas bien. C'est important, c'est très important. Ça veut dire que quelqu'un qui en dit Kaon, il doit vite ne pas laisser un seul instant et aller voir celui qu'il faut voir. Pour guérir, immédiatement, le plus vite possible. Pour ne pas que ça s'installe. Parce que tu es en train de partir en cacahuète, là. Non, c'est pas tout. Ça, c'est la chose qu'il faut faire au Shoshana. C'est-à-dire, je veux que mes pensées, mes paroles, mes actions soient identiques, fidèles à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le roi. C'est ça le rendre roi sur moi. C'est pas le proclamer roi en disant « Ouais, t'es le roi, vive le roi !» Ça, c'est chez les patos, hein. Nous, on lui dit « Je veux que tu sois roi sur moi », c'est-à-dire « J'accepte sur moi tes valeurs à toi de l'infini. » Que je comprends pas tout le temps. Mais je sais que c'est vrai. « Kamouvan shedvarenu » donc « Rosh Hashanah »« Zon ekudat azman » Ok. « Zikaron Elohize » Donc, ce souvenir divin, mais va t'être Hashivutam shel Anivraim. il prouve que les créatures sont importantes aux yeux de Dieu. Donc Dieu prend compte de sa propre création. C'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui s'est barré. Comme beaucoup de gens pensent qu'il en a rien à faire de nos petites histoires d'ici. Non, c'est un Dieu qui a un souci de faire passer ses pensées à l'homme. Sinon, quel est le sens de la vie? Si vous ne croyez pas en un Dieu qui intervient dans nos pensées, dans nos actions, dans notre manière d'être, c'est un Dieu qui n'existe pas. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il se soucie de te donner ses valeurs. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah.
Et où
les autres nations doivent en réalité écouter, puisque nous avons dit tout à l'heure, et le Zohar nous le dit, que Dieu dans le monde, c'est Israël. Donc, les nations du monde, comment est-ce qu'elles peuvent accepter Dieu? En reconnaissant Israël. Tant que les nations ne reconnaissent pas Israël, elles ne reconnaissent pas le divin. C'est terrible. Et nous sommes dans un jeu comme ça. Et nous devons, parce que peut-être nous ne savons pas non plus nous expliquer. Ça, c'est pas un kavod, attention, hein. D'un côté, c'est un kavod. D'un côté, c'est une responsabilité. Des fois, on préfère être tranquille, hein. On n'a rien demandé, nous. Mais je vous l'ai dit au début du cours, Dieu nous a braqué. Il nous a dit, c'est vous que j'ai choisi de créer comme ça. Vous êtes les seuls capables de faire passer cette lumière. Quelqu'un d'autre qui veut jouer ce jeu-là, il brûle. Immédiatement. Car il doit être résistant à quoi? Aux valeurs de l'infini. Il n'y a que Israël qui est résistant aux valeurs de l'infini. Donc l'infini peut passer par lui. C'est incroyable.
Okay.
Non, il n'y a pas marqué Vaï Shabbat. Il y a marqué Shabbat. Pas Shabbat. Non, pas Vaï Shabbat. Shabbat.
Et d'un autre côté, tu dis qu'il intervient.
Nakhon.
Alors,
Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré, entre guillemets, de l'action directe dans ce monde, visible. C'est-à-dire il est rentré dans son propre Shabbat et il nous laisse un petit peu se débrouiller. C'est ça qu'il fait. Mais de temps en temps, une fois par an, il vient pour savoir si nous sommes loin ou proches des valeurs du premier. De la source, c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'on ne demande pas des miracles. Quelqu'un qui demande des miracles, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il demande à Dieu de profaner son Shabbat. Vous comprenez ça? Parce que Dieu est obligé d'intervenir alors qu'il a décidé lui d'être dans son Shabbat. D'ailleurs, vous faites peut-être tous une erreur dans votre kiddush. Vous dites par exemple, Uvayom Hashvi'i, Shabbat. La plupart des francophones disent Shabbat. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un verbe. Ou Vayom Hashvi'i Shabbat, il s'est arrêté. Ou Shabbat. Pas Ou Vayom Hashvi'i, alors le septième jour, c'est Shabbat. Non. Shabbat, ou Shabbat, il a chômé. Shvita. C'est comme Gaal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Gaal Israël? Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Oh, vous avez peur. Et alors, dites, c'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël? Qui a sauvé? Ça, c'est toi, toi. Je l'ai dit en plus. Bon, lui, c'est un élève, même à 7 du. Quel Gaal? Comment ça s'écrit Gaal? Comment la ponctuation en dessous? Il y a fait. Voilà. À chaque fois que vous voyez quelque chose avec un kamas et un patar, c'est le nom d'un métier. Nagar. Tapar. Voilà. Vous avez compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Gaal? Le métier de Dieu, c'est de sauver Israël. C'est son boulot. Extraordinaire. C'est son métier, il a choisi ce métier. Donc, à chaque fois que vous dites Baruch Ata Hashem Gaal Israël, c'est comme si maintenant je vous le traduis en français, merci Éternel d'avoir choisi le métier de sauveur. Israël. Hein? Comment c'est pas si mal? C'est magnifique. J'adore. C'est pas si mal. C'est magnifique. Etzema Madaledin Mora al Khashibut Ainyan Veine Hashem. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu, quelque chose est important à ses yeux, il le juge. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le juge maintenant? Qu'est-ce que c'est din en hébreu? Je veux bien qu'on comprenne certaines choses. Le shiur est déjà terminé, mais bon. Qu'est-ce que c'est que din? Qu'est-ce que ça veut dire din? Bon, c'est pas le contraire. C'est la complémentarité. Il y a frémeos. C'est donner des limites. Donc, yom hadin, traduisez-moi maintenant par rapport à ça, c'est le jour des limites. C'est-à-dire en re des limites. On peut dire ça? Notre fonction sur Terre. On redéfinit, on redonne les mesures. C'est magnifique. Parce que de temps en temps, on se perd. Quelqu'un a tiré un jour la nuit avec un pistolet? Pas encore. Quand vous faites un tir de nuit, okay, vous ne voyez que le premier coup de feu. Après, vous avez été ébloui par la flamme qui sort, parce qu'il y a une flamme, et après c'est des devinettes, peut-être tu es à droite, à gauche, ça devient une panique totale. Qu'est-ce que nous disent les champions du tir? Ils nous disent, la première, c'est la bonne. Ne fais pas des systèmes dans ta tête, je vais à droite, je vais à gauche. Là où tu as tiré la première fois, continue à tirer dans la même direction. Et c'est la même chose dans notre vie. On est dans du noir. Et chaque fois qu'on veut ajuster, on ne fait que s'éloigner. Et donc, une fois par an, Akadosh Baruch Hu nous met face à l'étalon. La mesure étalon. La vraie mesure de notre vie. C'est magnifique, ça. C'est-à-dire, je peux savoir où sont les choses en ordre. C'est pour ça que le soir, vous faites un seder. C'est une remise en ordre de toute votre vie. Et si on savait comment se comporter dans ce seder, eh bien, on comprendrait que c'est pas seulement des coutumes. Ah, chez nous, on a le truc, et chez l'autre, c'est tout ce qui t'intéresse. Mais il faut dépasser un petit peu ça. Il faut dépasser ça pour comprendre ce que je fais. Donc, Akadosh Baruch Hu nous place face au point de départ. Et donc, ça va faire une comparaison entre la Sgoula, entre ma capacité première, initiale, et ce que je suis devenu moi-même dans ma vie. Donc, il y a à Rosh Hashanah une journée, en fait, qui est très, très complexe. Ma'amida et hayesh beregashot me'oravim. Donc on a un sentiment mélangé. Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Aïn bemar bocha. On a un œil qui pleure parce qu'on est une rba dedans, c'est pas trop. Vélève sa mère. En même temps, tu as un cœur réjoui. Comment tu fais? Il n'y a qu'un juif qui peut être les deux en même temps. C'est incroyable. Sois dans la rma joyeuse. Donc on est dans une journée où il y a un duel. Chavayatit, et on est en plein, on le vit ce duel, on ne sait même pas comment se comporter. Tu sais, il a dormi, oh là là, il a dormi. Il y a des gens, l'instant, s'ils dorment Rosh Hashanah. Le Harizal, il dit qu'il n'y a aucun problème de dormir l'après-midi de Rosh Hashanah, parce que le jugement se fait le matin. Jusqu'au moment du chauffard. Après le chauffard, tu peux aller dormir tranquillement. Ça y est, ça fait 3 jours qu'il est comme ça. Et encore, d'après le Harizal, le jugement se fait vers 5-6 heures du matin. Alors de toute façon, tout le monde dort. Alors nous, on a instauré dans mon petit village de Schtroumpf, Okay? Un cours au moment où on est jugé. C'est-à-dire on a un cours le jour de Rosh Hashanah, les deux jours, à 5h du mat, jusqu'à 8h. Et l'après-midi, on peut aller dormir. Parce que les mecs qui n'ont pas dormi l'après-midi, ils sont comme ça. Tu les vois, ils sont, tu leur dis n'importe quoi, ils te disent pas comme ça. Il ne faut pas exagérer. Et le Rabbi Chaim Vital Veraïti et Mori, comme ça il dit, et j'ai vu moi, mon propre maître, Shaya Yashem, Betore Rosh Hashanah qui dormait. Le Harizal il dormait, vous pouvez être tranquille. Vous allez me dire, oui c'est le Harizal, il était tranquille lui. Mais je vous dis que pas trop. Parce que plus t'es grand, plus t'as une responsabilité. Simcha Gdola, comment on peut être joyeux dans cette angoisse? Eh bien c'est une grande joie. Le seul fait qu'on soit important aux yeux de Dieu, qu'il prenne le soin d'Ichlal de me placer devant lui pour me dire, alors mon fils, alors ma fille, qu'est-ce que t'es devenu? Ça déjà, c'est la plus grande des simcha. Tu comprends? Quelqu'un fait cas de moi. Vecharada, alors quelle est l'angoisse? Mimidat adin, shamibash azeh me'orer bametziut. Il y a quand même un certain contact entre l'infini et toi, donc tu trembles un petit peu, même si tu n'as rien à te reprocher, tu as une angoisse. Donc, tu es dans la simcha, parce que on te veut, tu es important, et en même temps, tu te dis, bon, j'ai intérêt un petit peu à m'améliorer cette année. Quel? Non, il n'y a pas d'interdiction de pleurer, il y a Aïn Bemar Bocha, Velef Kamer. On peut pleurer pour une seule chose. De vouloir dire à Kadosh Baruch Hu, pas de commencer à dire j'ai fauté, j'ai machin, j'ai ma thèse, etc. Je suis complètement nul, naze, il n'y a pas pire que moi. Attention, hein. Attention, d'ailleurs j'ai un cours la semaine prochaine. Bezrat Hashem qui va remettre certaines pendules à l'heure. C'est-à-dire à ce sujet-là. Quel? Je sais pas, peut-être vous voulez dimanche avoir un cours? Alors il y a un cours dimanche prochain, Bezrat Hashem avant Yom Kippour. Pour remettre un petit peu certaines pendules à l'heure, parce que se taper comme ça à la poitrine, quel? D'ailleurs c'est interdit, hein. C'est interdit de faire ce bruit. Si vous entendez le bruit, comme ça c'est déjà interdit. Les Kabbalistes disent qu'il faut se caresser le cœur avec le pouce à l'intérieur et se dire faire attention, on n'est pas des malades à se taper bientôt avec les couteaux et les machins comme les Arabes là, alors il faut arrêter avec toute cette folie. On est un peuple. C'est sûr, non, mais elle a raison. Ou les pois chiches, ou les pierres. Des pierres, dans les pieds, dans les souliers. Pour ne pas que tu meurs. Il faut que tu souffres. Il faut, c'est plus de notre génération. Donc, Bezat Hashem, nous souhaitons tous juste d'abord de prendre conscience de qui nous sommes. Et ça, c'est un métier, c'est un doctorat. Vous savez comment on peut savoir si quelqu'un aime quelqu'un? Une réponse. S'il le connaît. S'il a étudié. C'est-à-dire quand tu viens à quelqu'un, tu lui dis, je sais que tous les dimanches tu portes ça, j'ai remarqué. Je sais que tu aimes le café avec un seul sucre, un sucre et demi. Ça paraît des petites bêtises. Mais en réalité, je te connais, j'ai fait une étude sur toi, ça prouve que je t'aime. Eh bien, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Plus vous étudiez, plus vous le connaissez, plus vous pouvez dire « Akadosh Baruch Hu anachnu avimotra ». Parce que si c'est pas le cas, on est un petit peu loin du truc. J'étais à une fête de Rosh Chodesh à Mitzpe Masoua, et tous les gens ont commencé à chanter « Akadosh Baruch Hu ». Anachnu ohavim otra. Connaissez? Il y a un autiste qui s'est levé et qui a crié à tout le monde, Chakranim! Eh bien, je peux vous dire que les mecs, ils sont glacés. Il leur dit, Aten stam chakranim, un autiste, parce qu'il ressent, il a senti les choses. Arrêtez de raconter, de chanter n'importe quoi. Si vous l'aimiez vraiment, il faut faire certaines choses. Alors, Baruch Hashem, je ne dis pas qu'on ne l'aime pas, on essaye de faire le maximum. La preuve, c'est que vous êtes là, de le connaître. Et celui qui essaie de le connaître, Akadosh Baruch Hu l'élève. Toda Rabba. Shana Tova, on vous répète.